Priorité Santé avec Sono Group. Et rendez-vous tous les mardis sur les pages des réseaux sociaux Sono Group pour en savoir plus sur nos produits d'assurance et services financiers.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Pas question de passer sous silence certaines maladies au prétexte de leur complexité, par exemple en l'absence de cause établie en l'état actuel de la recherche, en l'absence encore de l'examen clé révélateur, celui qui certifie à 100% le diagnostic, du manque de données chiffrées, d'indications épidémiologiques fiables ou encore d'un accès limité, voire inexistant, à certains traitements. Certaines de ces réserves valent pour le monde entier, d'autres sont propres au contexte tropical et des maladies, plutôt les maladies dont on parle aujourd'hui, eh bien que nous allons évoquer au cours de cette émission, ces maladies, elles cochent toutes ces cases. Les syndromes généraux systémiques, on peut citer par exemple le lupus, la polyarthrite rhumatoïde, qui sont susceptibles de lourdement altérer la qualité de vie du patient, mais aussi de dérouter, d'induire en erreur plus d'un soignant. Poser le diagnostic, c'est déjà une étape importante. Cela s'apparente un peu à compléter les pièces d'un puzzle, repérer des symptômes variés et a priori distincts, reconstituer l'histoire des atteintes à la faveur d'un examen clinique et d'interrogatoires approfondis pour arriver à identifier justement cette fameuse maladie, proposer une prise en charge précoce afin de retarder, d'éviter la survenue de complications et pour répondre à cette problématique du diagnostic, pouvoir s'appuyer sur des outils pédagogiques solides. Proposer donc un support de référence pour cerner, pour identifier ces maladies complexes. C'est ce que vous proposez avec ce manuel « Syndromes généraux et systémiques en contexte tropical » publié aux éditions Katana. Professeur Souebou Ndongo, bonjour.
Bonjour Madame Paré.
Vous êtes interniste, rhumatologue, chef du service de médecine interne au centre hospitalier national d'Alamjam de Dakar au Sénégal. Citation justement, compléter les pièces d'un puzzle, c'est directement extrait de cet ouvrage, destiné aux étudiants, en médecine, aux cliniciens. Le sujet est compliqué, hein, on ne va pas se le cacher et on va tenter de le mettre à la portée des auditeurs de Priorité Santé. Gros plan sur l'une de ces maladies systémiques, la polyarthrite rhumatoïde. On parlera aussi du lupus tout à l'heure en compagnie du professeur Jean-Jacques Malemba en ligne de RDC, le professeur Malemba qui enseigne la rhumatologie à l'université de Kinshasa. Après la Guinée la semaine dernière, on va faire le point en fin d'émission sur l'épidémie de maladies à virus Ebola en cours dans l'est de la République démocratique du Congo. On donnera la parole au docteur Léon Saloumou, responsable pays à Médecins sans frontières, qui est de retour du Nord Kivu.
Priorité santé sur RFI.
Alors, je m'y suis engagée, hein, professeur Ndongo. On va essayer vraiment d'être le plus clair possible, même si cet ouvrage, ce manuel, s'adresse aux professionnels de santé. On essaye de sensibiliser un large public à ces maladies assez compliquées, parce qu'il y a tout un tas de notions à définir, à expliquer. Déjà, ce fameux terme de systémique, maladie systémique, qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, vous savez, il y a plusieurs affections qui peuvent s'exprimer en n'intéressant qu'une seule sphère, un seul organe ou un seul tissu dans l'organisme. Exemple, quand vous avez une défaillance cardiaque, l'affection en question n'intéresse que le cœur. Mmh. Il y a la particularité des maladies systémiques, c'est d'intéresser plusieurs sphères, plusieurs appareils et systèmes d'organes. Donc, elles sont définies en quelque sorte par la diffusion des lésions qu'elles entraînent. Exemple, vous l'avez cité tout à l'heure, le lupus en est un, la polyarthrite rhumatoïde, c'est des affections qui peuvent à la fois intéresser la peau, intéresser les articulations, intéresser le cœur et le rein. Et c'est ce qui caractérise particulièrement ces affections qui sont en rapport avec une dysrégulation du système immunitaire de l'individu.
Ça veut dire que certaines de ces maladies peuvent avoir un impact très lourd sur la qualité de vie, professeur Ndongo, même engager le pronostic vital. Et c'est ça qui est compliqué, c'est qu'à un stade avancé, le corps peut vraiment être abîmé, mais à un stade initial, les signes peuvent être assez ponctuels.
Tout à fait. Dans la plupart de ces affections, il y a une production d'anticorps, c'est-à-dire le système immunitaire se met à produire des anticorps qui normalement devaient être dirigés contre les éléments étrangers et qui, de façon aberrante, se met à attaquer les propres tissus de l'individu. C'est pour ça que nous parlons, dans la plupart des cas, de maladies auto-immunes. Et en fonction de l'organe ou du tissu intéressé par la maladie, il peut y avoir un retentissement fonctionnel. Exemple, si nous prenons la polyarthrite rhumatoïde, les articulations sont attaquées par ce processus et ceci entraîne malheureusement une destruction irréversible des articulations, entamant naturellement le pronostic fonctionnel. Si un autre tissu comme le rein est intéressé ou le cœur, bien entendu, le pronostic vital peut être engagé et ceci doit être à tout prix évité par la prise en charge précoce.
Alors justement, ce meilleur moyen d'éviter les complications, les atteintes irréversibles, c'est un diagnostic qui est porté le plus tôt possible. On parle bien sûr du diagnostic précoce. On va comprendre que c'est bien pour identifier le plus tôt possible la maladie que vous avez rédigé cet ouvrage à destination des soignants. Pour dire les choses tout simplement, derrière un symptôme qui peut sembler banal, une douleur, un picotement, un problème sur la peau, un problème dermatologique, une fatigue qui ne passe pas, et bien derrière certains de ces signes peut se dessiner une maladie systémique. Est-ce que vous, on peut dire qu'il y a des grands signaux d'alerte, professeur?
La particularité de ces affections, c'est de s'exprimer au début par des signes malheureusement qui sont banals. Vous l'avez dit, une fatigue, une fatigabilité. Parfois des douleurs articulaires qu'on peut négliger, parfois des douleurs musculaires. Et justement, c'est en ce moment où le clinicien averti doit tout faire pour porter le diagnostic, parce que c'est le meilleur moment pour proposer un traitement et éviter les complications que nous avons citées tantôt.
Alors, il y a la fatigue, il y a tout un tas d'autres signes. Par exemple, vous citez l'amaigrissement ou des gonflements, des édèmes, par exemple. Il y a aussi la fièvre qui peut être aussi un repère.
Tout à fait. Mais ici, l'amaigrissement fait partie de ce que nous appelons les syndromes généraux. Parce que dans cet ouvrage, il y a deux grands chapitres qui sont notamment abordés. Il y a ce qu'on appelle les syndromes généraux et les syndromes systémiques. Nous avions parlé tout à l'heure de ce qu'est une maladie systémique. Pour ce qui est d'un syndrome général, c'est un syndrome qui, en s'exprimant, ne s'intéresse pas directement à une sphère bien donnée. Exemple, quand vous avez une toux, a priori, on peut considérer que cette toux est en rapport avec un problème pulmonaire. Mais quand quelqu'un maigrit ou quand quelqu'un a de la fièvre, cette fièvre ou cet amaigrissement ne renvoie pas directement à un organe bien donné. C'est en quelque sorte ce qu'on appelle un syndrome général. Et vous entrevoyez toute la difficulté dans ce cas de figure d'aborder ce syndrome parce qu'il nécessite une bonne analyse de tout l'organisme, de toutes les sphères pour pouvoir déchiffrer bien sûr la pathologie en cause.
Ça veut dire qu'une fois qu'un certain nombre de signes sont réunis, professeur Ndongo, on va pouvoir orienter le diagnostic vers telle ou telle pathologie. En quelque sorte, vous établissez une liste des signes de reconnaissance. On va dire si 5 symptômes sont réunis, on peut vraiment penser qu'il y a un diagnostic de polyarthrite rhumatoïde. Est-ce que ça se passe comme ça?
La complexité de ces affections, en particulier systémiques, font qu'on a du mal à avoir des critères diagnostiques solides. Aujourd'hui, si vous voulez porter le diagnostic d'un paludisme, il vous suffit d'isoler le germe responsable de la maladie. Et vous avez ce qu'on appelle un diagnostic de certitude. Si vous voulez porter le diagnostic d'une infection urinaire, c'est exactement la même chose. Il faut tout simplement isoler le germe. Mais ici, la complexité, encore une fois, fait de sorte que il y a des réunions de consensus, c'est-à-dire les experts au plan international, à travers ce qu'on appelle des sociétés savantes, qui regroupent bien sûr ces experts, se réunissent régulièrement en fonction de leur expérience, en fonction des données de la littérature, bien sûr, et proposent ce qu'on appelle des critères qui permettent de porter le diagnostic. Alors, ces critères, bien sûr, ne sont pas absolus.
Alors, il y a la mise en commun des savoirs, mais bien sûr, vous insistez là-dessus, et c'est essentiel, professeur Souebundongo, l'importance de l'examen clinique. Alors, pourquoi insister autant? Est-ce que vous avez aujourd'hui un petit peu l'impression qu'on va davantage, justement, vers une approche plus technique, qui se concentre sur des examens complémentaires, plutôt que s'en arrêter à la fameuse auscultation et aussi écouter l'histoire du patient?
Tout à fait. Vous avez lâché le mot, le terme examen complémentaire. Donc, c'est un examen qui complète. Qui complète quoi? Un examen clinique qui s'appuie sur un interrogatoire minutieux, mais également sur un examen physique complet du patient. Et ceci est très cher aux médecins, en particulier les internistes, puisque c'est à travers un bon examen clinique qu'on pourra définir les anomalies que présente le patient et lesquelles anomalies maintenant vont devoir être confirmées par des examens complémentaires. Mais malheureusement, et heureusement d'ailleurs qu'on a assisté à des avancées sans précédent dans le domaine des examens complémentaires, mais si ces examens complémentaires ne sont pas utilisés à bon escient, après un bon examen clinique, on passera toujours à côté du diagnostic après avoir fait faire aux patients énormément d'explorations qui sont à la fois coûteuses, mais aussi prenantes en termes de temps.
Encore faut-il savoir orienter le patient lors de cet examen clinique pour aller vers le faisceau d'indices, puisque on peut dire qu'en quelque sorte, le clinicien et l'interniste se transforment en enquêteurs.
Tout à fait, puisque les pathologies ne s'expriment pas de la même façon. Et même quand vous prenez une seule pathologie systémique, vous avez énormément de modes d'expression. Exemple, aujourd'hui, la polyarthrite rhumatoïde peut s'exprimer au tout début par des manifestations oculaires. Et c'est l'ophtalmologiste qui va devoir adresser le patient donc aux internistes. D'où, encore une fois, l'intérêt de cette prise en charge multidisciplinaire et de l'interrelation entre les différentes spécialités.
De la même manière, d'autres maladies systémiques peuvent être repérées par un dermatologue.
Tout à fait, tout à fait. Si nous prenons la maladie systémique auto-immune phare, qui est la maladie lupique, le lupus, les signes dermatologiques sont le plus souvent au devant de la scène. Et il y en a même certains qui sont pathognomoniques de la maladie lupique.
Alors, votre livre est sous-titré, on va dire, est identifié à une région, le contexte tropical. Ça change les choses, hein, en Afrique subsaharienne en particulier, professeur. Est-ce qu'on doit considérer que ces maladies sont peu diagnostiquées parce qu'elles sont peu présentes en Afrique subsaharienne ou parce que les soignants ne sont pas encore suffisamment formés, avertis pour les diagnostiquer?
Je pense qu'il y a quand même des avancées notoires, hein, dans l'approche de ces affections dans le continent africain. Et ceci lié notamment à la disponibilité de plus en plus importante des examens complémentaires et de la formation continue qui s'est beaucoup développée ces dernières décennies. Mais il reste encore du chemin à faire dans la vulgarisation de ces affections pour permettre aux populations de pouvoir se présenter dans les structures sanitaires très tôt, mais également de permettre aux cliniciens de se remettre perpétuellement en question, puisque c'est ça la médecine. Les connaissances médicales périment en moyenne presque tous les 3 ans. Donc il faut tout le temps se remettre en question. Il y a de nouvelles maladies qui sortent, il y a de nouveaux procédés diagnostiques, et tout ceci va aider à améliorer bien sûr le diagnostic de ces affections et éviter aux patients certaines pratiques malheureusement traditionnelles qui peuvent gréver davantage le pronostic fonctionnel ou vital.
Professeur Ndongo, si je vous comprends bien, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a quand même un sous-diagnostic de ces atteintes.
Tout à fait, nous l'avons et il faut absolument de manière continue travailler à l'améliorer et sur tous les niveaux, aussi bien au niveau des populations, mais également au niveau de nos différentes structures médicales.
Alors, on va le voir, hein, au-delà du diagnostic d'une de ces maladies peut se greffer une ou plusieurs autres atteintes. On va également aborder la problématique clé de l'accès au traitement. Mais si vous le voulez bien, professeur, illustration avec le témoignage d'un auditeur de Priorité Santé.
RFI à Yaoundé, 105.5 FM.
Et pour cela, direction le Cameroun. On retrouve en ligne Daniel. Daniel, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes âgé de 27 ans, vous souffrez d'une polyarthrite rhumatoïde. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Daniel, dans quelles circonstances, comment ce diagnostic a été posé?
Ok. Il y a de cela 2 ans seulement qu'on a constaté que moi, je souffrais d'une maladie appelée polyarthrite rhumatoïde. Et avant ça, en l'âge de 15 ans, je souffrais d'une telle maladie. Et puis, les hôpitaux, parcourir des hôpitaux en hôpitaux, on parlait rhumatisme, quoi. Mmh. Oui.
On avait dit le mot rhumatisme, on n'avait pas dit le véritable nom de la maladie. Les médecins, en fait, n'arrivaient pas à identifier la maladie dont vous souffrez vraiment, c'est ça?
Effectivement. On faisait des examens, on trouvait d'autres rhumatismes dans le corps. Donc, je souffre du rhumatisme et je prenais le traitement du rhumatisme. C'est-à-dire de cela, les injections, de cela, beaucoup d'années, de cela, 10 ans, jusqu'au moment où j'ai rencontré un neurologue qui a diagnostiqué et m'a donné le nom de cette maladie-là. Jusqu'au moment, on a donc traité, et avant d'arriver à ce moment-là, j'étais vraiment tellement souffrant, je souffrais tellement. Et puis, faute de moyens, on a commencé à traiter l'articulation qui me faisait la plus mal, à savoir le genou gauche qui se faisait par injection. Et le neurologue demandait à ce que toutes mes articulations soient soignées pour avoir au moins ce soulagement pour un bon bout de temps.
Vous avez senti une différence quand on vous a changé de médicament, de traitement?
Une très grande différence, très très grande différence, puisque il y a de cela déjà un bon bout de temps, 6 mois, que je me plains pas d'un petit mal que ce soit, sans dire le aïe ou autre. Donc avant que, quand on me faisait les injections du rhumatisme, 2 semaines après, suite de cela, et les crampes et puis tout ce qui, mes genoux, mes articulations, démangeaient, ça recommençait, ils en vont de 0h minuit, j'avais des douleurs atroces au point de perdre même connaissance.
Est-ce que ça vous a empêché, parce que vous êtes très jeune, hein, Daniel, 27 ans aujourd'hui, ça dure depuis que vous avez 15 ans, est-ce qu'il y a eu certains moments où vous ne pouviez plus marcher?
Oui, je marchais plus, comme un nouveau-né, il rampait sur les 4 jambes, quand je rampais comme un bébé, je pleurais. Ça me faisait tellement mal, ça me donnait la fièvre et puis me rendre dans l'inconscience.
On comprend cette douleur extrême. Est-ce que le médecin vous a expliqué la nature de votre traitement? Ces injections, c'est quoi? Ce sont des infiltrations de corticoïdes, c'est quoi?
Bon, pas clairement, puisque moi-même, dans ma maladie, je n'avais pas la tête posée, quoi. Oui, c'est ma maman qui me suivait, qui était à mes côtés et qui avait plus d'explications à cela.
Et aujourd'hui, Daniel, vous avez envie de comprendre cette maladie. Est-ce que vous avez les éléments? Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous a bien expliqué ce que c'était cette maladie? Pour tout le monde, ces maladies, elles sont très compliquées. Quand on est comme ça, en souffrance, est-ce qu'on a envie de savoir ou finalement, on préfère que le médecin s'en occupe et qu'on laisse un peu tout ça de côté?
Non, on a envie de savoir, parce que c'est pas facile qu'ils sont toujours dans la souffrance. Et puis, vraiment, moi, de mon côté, je ne connais pas cette maladie, je ne sais pas d'où elle vient. Et j'aimerais qu'on m'éclaircisse, qu'on me dise moins d'où elle vient, ce qu'elle peut causer à long terme dans la santé. Tout ça.
C'est des questions très générales mais très intéressantes. Professeur Swebu Ndongo, je sais qu'il y a certaines de ces réponses, vous en avez la clé, d'autres pas forcément. Quand Daniel demande, et c'est bien normal, d'où vient ma maladie, qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
C'est difficile de dire exactement d'où vient sa maladie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des facteurs qui sont incriminés dans la survenue de la polyarthrite rhumatoïde. Encore une fois, la polyarthrite rhumatoïde étant un rhumatisme inflammatoire redoutable. Et en passant, le terme de rhumatisme, c'est un fourre-tout. Mm-hmm. Dès qu'on a un problème au niveau des os, des articulations, des tendons, des muscles, des points d'insertion de ces tendons et muscles sur les os, on parle de rhumatisme. Mm. Et il y a vraiment plusieurs types. Mm. Alors, pour ce qui est de la polyarthrite rhumatoïde, pour revenir à votre question, il y a des facteurs environnementaux qui ont été bien incriminés, tels que le tabac. Plus on fume, plus on augmente son risque de développer une polyarthrite rhumatoïde. Il y a certaines infections, notamment un germe qu'on appelle Porphyromonas gingivalis, qui intéresse notamment beaucoup les chirurgiens dentistes, puisque ça donne des parodontites. Ce germe également est un facteur environnemental. Mais il y a aussi des facteurs génétiques. Il y a certes ce qu'on appelle des groupes HLA, puisque dans notre organisme, nous avons énormément de gènes, ce qu'on appelle les génomes, constitués de 25 000 gènes, et chacun de ces gènes est chargé de mener à bien la fabrication d'une protéine, en tout cas une action dans notre organisme.
Une maladie professeur, une maladie qui se déclenche comme ça chez Daniel à 15 ans, aussi jeune, est-ce que c'est fréquent ?
Oh oui, c'est relativement fréquent. Ouais. Ça peut même se déclencher à un âge beaucoup plus jeune, ce qu'on appelle les arthrites juvéniles idiopathiques. Il y en a qui développent leur atteinte rhumatismale inflammatoire à 2 ans ou 3 ans. À ce moment, on parle d'arthrite juvénile idiopathique. À partir de 16 ans maintenant, on les classe en fonction du type en polyarthrite rhumatoïde.
Daniel s'interroge sur son avenir, hein, les conséquences à long terme pour la santé. On voit là qu'il reçoit des injections. D'ailleurs, Daniel, comment ça se passe pour le financement de vos traitements ? Est-ce que c'est compliqué ? Vous avez le budget pour vous faire soigner ?
Oui, c'est un peu compliqué parce que par injection, on demandait un truc de 15 000 francs. Oui, donc par articulation. Et sans compter l'argent des consultations.
Professeur, justement, il y a ces injections. Ça doit être peut-être des injections de corticoïdes. Pour sa santé, à Daniel, est-ce que ça risque... bien sûr, impossible de faire de pronostic au long terme. Il n'a que 25 ans. Mais qu'est-ce que vous pouvez lui dire à ce sujet ?
Alors, je dois le dire clairement, c'est difficile, bien sûr, d'être très clair, exhaustif par rapport à la santé de Daniel, puisque je ne l'ai pas examiné,
bien
donc
sûr,
je n'ai pas le
sûr.
Dossier. Mais par rapport à sa maladie, il y a des considérations générales que je peux lui dire. Hein. Si vous avez une polyarthrite rhumatoïde, il vous faut ce qu'on appelle un traitement de fond, puisqu'il y a deux types de traitements. Il y a le traitement qui freine l'évolution de la maladie et qui permet au patient d'être à l'aise, de retrouver sa santé, d'avoir une bonne réinsertion socio-professionnelle. Et le traitement symptomatique. Bien entendu, si le traitement de fond qui freine l'évolution de la maladie est efficace, on n'a plus besoin quasiment de traitement symptomatique. Et je crois savoir que les injections dont il parle sont des injections de corticoïdes qui sont tout simplement un traitement symptomatique.
Quand il y a une
Quand il y a une poussée, ce que je conseillerais à Daniel, c'est de se rapprocher d'un rhumatologue ou d'un médecin interniste qui certainement, en fonction de l'état d'évolution de sa maladie, va lui proposer un traitement de fond. Et il y en a plusieurs qui permettra de freiner l'évolution et d'éviter ces injections-là qui, à long terme, peuvent également entraîner d'autres complications puisque les corticoïdes ont des complications également utilisées au long cours.
Sur la santé générale. On remercie beaucoup Daniel pour ce témoignage très très instructif. On reparlera de l'aspect financier dans la question de l'accès au traitement, l'approvisionnement, la disponibilité de certains traitements innovants en deuxième partie d'émission. On va y revenir tout de suite après une pause musicale avec Onamu Wumi et Flavor et ce titre Bottom Bell. So Sobericon Matsuki Kokoma a standby a DBC Konga oh mommy's baby Wanda Kokoma a standby a DBC Konga oh mommy's baby Wanda Wanda
tell you my own, yeah. When you reach to buy me fine things, you all are a diet, yeah. If I tell you something to do me better, try and understand. Cause as a woman, well, I keep plenty money. You should be so you can shake your body. You be chairman, you be from mountain, yeah. Chairman, do something.
Hey. I'm reggae.
Tombele, aboba, 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 abansuwe, oyana, flavor, oma omi, baby, tombele, aboba, 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 abansuwe,
the way you the wine I'm go down, down low, you the cool of my heart, the way you the shake your bum, 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 you the cool of my heart.
You want them for naira or dollars?
Yes.
You want them for pounds or euros?
Yes.
Anything for you, baby, kulu my heart, yo.
Priorité santé sur RFI en compagnie du rhumatologue et interniste professeur Ndongo. On continue de compléter les pièces du puzzle, hein. Pour mieux comprendre ces maladies regroupées sous le terme de syndromes généraux et systémiques, polyarthrite rhumatoïde, lupus, sarcoïdose. Professeur Soeibou Ndongo, notre auditeur Daniel a évoqué rapidement tout à l'heure l'aspect financier, on va dire l'obstacle financier pour accéder au traitement. Il y a aussi, vous l'indiquiez en conclusion de votre livre, plusieurs classes de médicaments qui existent, mais là encore, on parle du contexte tropical. Ces médicaments, ils ne sont pas accessibles partout. Alors, pour le conventionnel, on va dire, ça va. Et là encore, il peut y avoir des ruptures d'approvisionnement.
Oui, allô.
Vous êtes toujours avec nous, oui.
Oui, parfaitement.
Pour ces ruptures d'approvisionnement, pour l'accès aux nouvelles classes de traitement, qu'est-ce qu'on peut dire, justement ? Est-ce qu'on peut véritablement parler d'une inégalité en termes d'accès aux soins ?
Disons clairement quand même que l'achat continu des molécules est un véritable problème pour le suivi de ces pathologies, puisqu'il s'agit de pathologies chroniques nécessitant un suivi quasiment toute la vie. Même si, du point de vue thérapeutique, quand même, il y a eu pas mal d'améliorations. En Afrique, nous avons une bonne disponibilité des molécules conventionnelles. Mais ce qui nous pose problème actuellement, c'est les biomédicaments, c'est-à-dire les nouvelles molécules qui sont beaucoup plus efficaces, qui sont indiquées dans certaines situations. Même si, je dois le préciser, le traitement conventionnel instauré très tôt et bien managé peut aider un bon nombre de patients. Mais il y a tout de même, encore une fois, des patients qui ont besoin de ces biomédicaments et qui coûtent excessivement cher pour le suivi.
Professeur Ndongo, ces médicaments, non seulement ils coûtent cher, mais en plus, ils peuvent avoir un effet, par exemple, sur l'immunité, rendre les patients immunodéprimés, particulièrement fragiles à certaines infections. Quand on est dans des contextes comme en Afrique subsaharienne où la tuberculose fait encore des ravages, on y pense forcément avant de prescrire ce type de médicament ?
Tout à fait. Je l'ai dit à l'entame de l'émission, la plupart de ces affections sont liées à une dysrégulation du système immunitaire. L'individu a un système immunitaire hypertonique qui se met à l'attaquer lui-même. Et donc, pour freiner l'évolution de ces affections, on donne des molécules qui réduisent les capacités, en résumé, du système immunitaire. Il y a naturellement un corollaire à cela. Les infections vont être beaucoup plus fréquentes. Et c'est pour cela, d'ailleurs, qu'on fait régulièrement des examens de suivi pour s'assurer qu'il n'y a pas un risque très, très important d'infection. Et bien entendu, plus que nulle part ailleurs, en contexte tropical, le risque infectieux est beaucoup plus important. Et donc, nous faisons très, très attention. Et ceci fait que même si les biothérapies sont disponibles dans une certaine mesure ou vont l'être, il y aura également ce problème de management de ces biothérapies dans ce contexte-là, en particulier avec la tuberculose.
Alors, professeur Dongo, un point avant de partir pour Kinshasa. Vous insistez à plusieurs reprises dans votre livre sur le recours parfois à la médecine traditionnelle qui peut être face à ce type de maladie préjudiciable pour les patients. Ça peut retarder la prise en charge, mais ça peut aussi présenter de vrais dangers.
Tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est lié au fait que souvent, le diagnostic n'est pas porté très tôt. Mmh. Donc, si l'analyse sémiologique n'est pas très, très fine, et ça peut décourager les patients.
On cherche des solutions rapides.
Qui vont chercher des solutions rapides et qui, malheureusement, dans la plupart des cas, ne sont pas les meilleures solutions. Parce que en rapport avec des complications qui peuvent engager le pronostic vital.
On part tout de suite pour la République démocratique du Congo.
RFI à Kinshasa, 105 FM.
Et on vous retrouve en ligne, professeur Jean-Jacques Malemba, bonjour.
Bonjour, bonjour madame.
Médecin, professeur de rhumatologie à l'université de Kinshasa, on parle d'une autre maladie systémique en votre compagnie, si vous le voulez bien, le lupus. Professeur, ce nom est connu du grand public, mais forcément, on a envie de vous demander d'écrire le lupus en une minute. C'est impossible, mais quand même, on va vous demander d'essayer de le faire.
Oui, merci. Le lupus est une maladie rhumatismale inflammatoire et systémique, un peu comme l'a dit le professeur Dongo tout à l'heure, une maladie qui peut toucher n'importe quel système et ou organe du corps humain et qui a une expression clinique polymorphe, c'est-à-dire que la maladie peut se présenter sous différents visages, avec principalement une atteinte des articulations, de la peau et d'autres organes comme les reins. Principalement. Mais tous les autres organes, le système cardiovasculaire, les poumons, peuvent être touchés. Et le lupus est une maladie auto-immune. C'est-à-dire qu'il y a, comme le professeur l'a dit tout à l'heure, un problème du système de défense qui s'en prend au constituant du soi, donc au constituant du malade lui-même. Voilà un peu dit très brièvement.
Professeur Malemba, ça doit être un exercice extrêmement difficile d'expliquer aux patients des maladies aussi compliquées. Tout à l'heure, on a eu Daniel. Depuis 2 ans, il sait qu'il est atteint de polyarthrite rhumatoïde. J'imagine que c'est un petit peu la même chose parfois pour vous en consultation. Quand on a une famille, une maman, des enfants et qu'on dit voilà, c'est un lupus, qu'on entend ce mot pour la première fois, les gens se disent mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que vous leur dites?
Bon, il faut faire montre de beaucoup de pédagogie déjà, donc essayer d'expliquer au malade en des termes qui soient les plus simples à comprendre pour lui, qu'il comprenne qu'il s'agit d'une maladie systémique, donc lui expliquer que tout peut être touché chez lui, et lui expliquer déjà ce que c'est que l'immunité, son rôle, et ce que c'est que l'auto-immunité. Donc lui faire comprendre que ses anticorps, par exemple, peuvent s'attaquer à ses propres organes, à son propre corps, pendant qu'ils sont censés le protéger. On arrive à trouver des mots, mais ce n'est pas évident, ce n'est pas évident.
Autre difficulté, on va dire, la maladie évolue vraiment en fonction de chaque patient. Pour l'un, il va pouvoir développer une forme assez légère. Pour d'autres, cela pourrait être très grave. Comment est-ce que vous faites, là encore, en consultation, quelqu'un vous demande qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce qui va se passer pour ma santé, qu'est-ce que je peux faire comme projet, qu'est-ce que vous lui répondez?
Bon, déjà, par principe, je parle de moi-même, j'essaie d'être le plus positif possible
bien
avec
sûr,
le malade que j'ai devant
sûr.
Moi. Essayer de lui présenter les choses de la manière la moins dramatique possible, parce que, comme vous venez de le dire, la maladie n'est pas la même chez tout le monde. Il y a des malades qui ont un tableau plutôt bénin et certains qui présentent un tableau un peu plus fâcheux. Mais on essaie d'être positif en expliquant aux patients que l'important, c'est d'essayer de le prendre en charge convenablement, avec le traitement adéquat, avec un suivi régulier, et espérer ainsi qu'avec ça, un bon traitement, bon, bien que le succès n'est pas garanti à 100%, et surtout un suivi régulier, alors vraiment régulier, pour faire des ajustements chaque fois que cela sera nécessaire.
Poser le bon diagnostic, on peut considérer qu'il y a certains points communs entre cette maladie dont on parle, le lupus, et la polyarthrite rhumatoïde. Quand on est médecin, on parle de diagnostic différentiel. Comment justement on arrive à faire la part des choses ?
Bon, le diagnostic différentiel entre les deux ou entre les lupus et les autres maladies qui lui ressemblent, comme la polyarthrite rhumatoïde et d'autres, hein, il y en a d'autres. C'est un travail qui peut être fastidieux, mais il y a parfois des éléments qui vous aident à y arriver sur le plan clinique. La présence chez un malade d'un tableau de polyarthrite, par exemple, avec les cheveux qui tombent, avec certaines lésions cutanées, hein, notamment cet aspect typique-là de masque de loup, une sorte de rougeur qui donne un peu l'impression d'un masque de loup, ce qui donne d'ailleurs le nom à la maladie, le nom de lupus.
Surpigmentation sur le visage, comme ça.
Oui. C'est un érythème, c'est beaucoup plus rougeur sur peau blanche et sur peau noire, c'est de l'hyperchromie, un peu de... ils ont une lésion qui semble noire sur peau noire. Évidemment, il y a parfois des signes qui vous aident. Chez un malade avec polyarthrite rhumatoïde, certaines déformations observées au niveau des mains, au niveau des pieds, peuvent vous conduire vers le diagnostic et la distribution même de l'atteinte articulaire. Après, il y a les examens de laboratoire qui aident en cela. Mais comme l'a dit le professeur Dongo tout à l'heure, le diagnostic est basé sur un faisceau d'arguments. Donc, quelque part, l'expérience ou l'expertise du médecin a beaucoup d'importance pour arriver à poser le bon diagnostic.
Là encore, reconstituer les pièces du puzzle. Est-ce que, professeur Malemba, le lupus est considéré comme une maladie rare dans un pays comme la République démocratique du Congo ?
Effectivement, c'est une maladie rare. On n'a pas des données sur l'ensemble de la communauté. Mais si on l'en prend même des malades que nous suivons, en rhumatologie, le lupus, c'est environ 1% des rhumatisants que nous voyons aux cliniques universitaires de Kinshasa. Bon, je me base là sur les données d'une étude portant sur 15 ans qui a été réalisée dans mon hôpital il y a quelques années. Le lupus, c'était à peu près 1% de l'ensemble des malades suivis en rhumatologie. Mais ça reste une maladie rare, même si on n'a pas de données locale sur l'ensemble de la population.
Et évidemment, point essentiel en termes de traitement, qu'est-ce que vous proposez aux patients concernés lors de votre consultation à Kinshasa ?
Bon, le traitement est un autre problème, hein, parce que l'accès au traitement n'est pas une chose simple avec la pauvreté d'une bonne partie de la population. Et aussi la tendance à consulter tardivement pour plusieurs raisons, notamment la pauvreté, l'automédication, les tradis praticiens, etc. Mais pour soigner le lupus, nous recourons au basique, c'est-à-dire un traitement anti-inflammatoire à base de corticoïdes, mais aussi un traitement de fond. Dans le traitement de fond, il y a plusieurs molécules qui sont utilisées, comme la chloroquine, l'hydroxychloroquine, lorsqu'on a un tableau qui n'est pas sévère. Mais lorsqu'un le tableau est modéré ou un peu sévère, là, bon, il y a les immunosuppresseurs qui peuvent être utilisés dans les maladies cancéreuses, hein, pour certaines de ces molécules-là. On recourt à ces molécules-là. Alors, pour le reste, le traitement va dépendre aussi de la modalité, de l'expression de la maladie. Un malade qui a une insuffisance rénale peut bien bénéficier d'une hémodialyse, comme tout autre malade insuffisant rénale. Un malade qui a un problème cardiaque va recevoir le traitement qui correspond à son atteinte. Voilà. Mais la base, c'est corticoïdes, traitement immunosuppresseur.
Merci infiniment.
Cas par cas.
Merci infiniment, professeur Malemba, d'avoir répondu à nos questions. Très bonne journée à Kinshasa. On vous retrouve en ligne de Dakar, professeur Ndongo, pour la dernière partie de cet échange. On a bien perçu la variété des symptômes possibles. On traite l'origine, on traite les effets sur le corps, ce qu'on peut désigner comme des complications, maladies qui touchent donc le corps, parfois plusieurs organes simultanément, des complications variables. Et puis, tout à l'heure, on parlait de ces syndromes, un syndrome dont on n'a pas encore forcément beaucoup parlé. Il s'agit de l'anémie. On le retrouve dans quel cas ?
Alors, on peut retrouver l'anémie dans plusieurs situations. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai essayé de l'aborder un peu dans le chapitre de syndrome général. Quelqu'un, par exemple, qui perd du sang, et cette perte de sang peut être liée à beaucoup de facteurs, notamment un cancer à bas bruit peut saigner pendant très très longtemps, et malheureusement, dans cette situation, l'anémie peut être une circonstance de découverte. les carences, notamment en acide folique, puisque dans la fabrication du globule rouge, il y a plusieurs ingrédients, on peut dire comme ça, qui participent, dont l'acide folique. Donc s'il y a une carence, cette carence peut être à l'origine de l'anémie. Et le traitement va dépendre naturellement de la cause. Et souvent, dès qu'on dit anémie, les gens se précipitent sur une supplémentation en fer.
Pour conclure, professeur Ndongo, je voulais vous soumettre un message d'une dernière auditrice, Salimata. Elle a écrit un message Facebook, elle vit en région parisienne. Polyarthrite rhumatoïde, le diagnostic a été posé il y a 2 ans. Elle est suivie par un rhumatologue. Elle prend de la salazopyrine, c'est un anti-inflammatoire, des corticoïdes, un immunosuppresseur qui s'appelle le Cimzia, voilà, là c'est l'ordonnance. Et donc, elle souhaiterait avoir un bébé. Elle a une question que je vous soumets. Est-ce que vous avez des informations sur ce point? Est-ce que cette maladie, la polyarthrite rhumatoïde, peut avoir un impact sur la fertilité ou vous n'avez pas connaissance d'informations en ce sens?
Alors, globalement, si nous regardons les données de la littérature, les femmes, puisque dans ces affections, le plus souvent, c'est les femmes qui sont atteintes. Bon, nous ne l'avons pas abordé, mais c'est en rapport avec beaucoup de facteurs, notamment hormonaux. Mm-hmm. La femme étant plus résistante que l'homme, son système immunitaire est plus développé. Et donc, naturellement, s'il y a des mécanismes en rapport avec une dysrégulation de ce système immunitaire, c'est la femme qui est beaucoup plus intéressée. Mm-hmm. Voilà. Et si on regarde les données de la littérature, globalement, il n'y a pas de problème de fertilité. Par contre, il y a souvent un rapport avec ces affections des pertes fœtales liées au fait que ces affections peuvent entraîner des troubles, notamment au niveau du placenta et autres. Je rentre pas dans les mécanismes et donnant le plus souvent des pertes fœtales. Mais là, globalement, dans les centres de diagnostic et de prise en charge de ces affections, cet aspect est bien considéré. Et il y a certains anticorps qui sont demandés pour voir si ce risque-là est présent ou pas. Et une fois que sa maladie est stable, elle pourra naturellement être accompagnée pour faire son enfant.
Un problème important, faire bien attention au traitement que l'on prend. Un professeur Ndongo, quand on a un projet d'enfant, il faut en parler avec son médecin.
Tout à fait, parce qu'il y a des médicaments qui sont tératogènes, qui sont certes efficaces pour ces affections, mais qui sont tératogènes. Si nous prenons le méthotrexate, qui est un peu le médicament phare en termes de traitement conventionnel de la polyarthrite rhumatoïde, ce méthotrexate est contre-indiqué au cours de la grossesse. Donc, chez la femme qui est suivie pour une polyarthrite rhumatoïde qui est sous méthotrexate, il va devoir réaménager le traitement et proposer, bien sûr, des molécules qui passent avec la grossesse et l'allaitement. Et ces molécules existent.
Un point important, l'acceptation de la maladie. Depuis le début de l'émission, professeur Ndongo, on insiste sur l'amélioration de la prise en charge, le diagnostic, les traitements, mais aussi mieux faire connaître ces maladies. On parle bien sûr de l'éducation thérapeutique, mais aussi de la famille, de l'entourage, pour que tout cela, parce que des fois, on l'a dit, il y a un fort impact sur la vie quotidienne, tout cela soit mieux accepté par les familles. Le regard des autres, encore une fois, c'est essentiel.
Tout à fait, parce que la survenue de telles affections modifie complètement la vie du patient. Il faut absolument un accompagnement qui commence par une bonne information de la personne, mais également de tout son entourage qui comprenne que les choses ont changé et qu'il y a une nécessité d'adaptation, notamment dans la prise en charge, bien entendu. Et pour la note positive, qu'on sache quand même qu'il y a de plus en plus des praticiens qui sont intéressés par ces affections en Afrique subsaharienne et quand même les procédés diagnostiques ont été améliorés et encore une fois, si le traitement est préconisé très tôt, je pense qu'on peut...
Les meilleures chances sont réunies. On vous remercie infiniment, professeur Soyebou Ndongo. On rappelle le titre de ce livre, Syndrome généraux et systémique en contexte tropical, publié aux éditions Katana.
RFI.
La semaine dernière, nous étions rendus à Conakry pour faire le point sur la riposte à l'épidémie à virus Ebola en Guinée. Aujourd'hui, on vous donne la parole, docteur Léon Saloumou, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes responsable pays, dont la RDC à Médecins Sans Frontières, de retour de Boutembo, dans l'est de la République démocratique du Congo, cette région du Nord Kivu, concernée par une nouvelle résurgence de l'épidémie, reprise signalée le 7 février. Alors, quels sont aujourd'hui les derniers retours de terrain dont vous disposez, docteur ?
Ok, donc au jour d'aujourd'hui, comme vous le savez, hein, vous l'avez dit, hein, donc l'épidémie a été déclarée en début du mois de février. Donc au jour d'aujourd'hui, on compte 11 cas confirmés d'Ebola au niveau de la province du Nord Kivu. Mm-hmm. Il y a eu 3 nouveaux cas il y a 2 jours, hein, donc fin de mois de février, donc il y a eu 3 nouveaux cas. Est-ce qu'il faudrait savoir que la plupart de cas, c'est des cas de contamination hein, qui viennent du premier cas qui avait été déclaré le 6 février. Donc on est à 11 cas aujourd'hui avec 4 décès, dont un décès communautaire. Il y a 3 patients qui sont sortis guéris du centre de traitement et 4 qui sont aujourd'hui suivis au niveau des 2 centres de traitement qui sont à Boutembo, donc dans la zone de santé de Katoa et des Biéna.
Du côté de l'organisation de la Riposte, qui sont aujourd'hui les principaux intervenants dans cette zone de Boutembo ?
Alors, la Riposte au jour d'aujourd'hui, hein, si je fais une comparaison à ce qui avait été organisé en 2018-2020, c'est une Riposte qui est organisée par la province du Nord Kivu, parce qu'en 2018, c'était plus le niveau national. Donc, c'est la province avec le ministre provincial de la Santé qui tient effectivement l'équipe de coordination avec un support de l'équipe nationale. Et ce qui est un peu plus différent aussi de ce qu'on a constaté en 2018-2019, il y a une forte participation et une volonté de faire participer la communauté à cette riposte. Et en termes d'intervenants ou d'acteurs internationaux, à part l'OMS et UNICEF, hein, qui sont quand même des intervenants qui travaillent avec le ministère, donc il y a nous, Médecins Sans Frontières, il y a 2 autres ONG, IMC et Alima, qui sont présents au niveau de la zone de Boutembo.
Et en termes d'adhésion, d'acceptation, ça se passe comment ? Bien sûr, on se souvient 2018, les frictions, les tensions, avec même des violences en rapport avec cette riposte. Ces derniers temps, depuis le mois dernier, ça se passe comment ?
Alors, je pense qu'il y a, à partir du moment où il y a cette volonté de pouvoir impliquer davantage la population, hein, renforcer cette participation et l'engagement communautaire, je pense que c'est ce qui aide au jour d'aujourd'hui. Hein. Donc on ne remarque pas ces tensions qu'on avait connues les années en 2018-2020. Donc il y a cette volonté que ce soit de l'équipe de Riposte et aussi des ONG qui sont là présents de travailler avec les communautés, ce qui diminue en quelque sorte cette tension qu'on avait remarquée lors des épidémies antérieures. Donc nous espérons qu'on va continuer toujours à travailler dans ce sens-là pour renforcer cette participation et cet engagement communautaire. Et nous, au niveau de Médecins Sans Frontières, c'est ce qu'on fait aussi, hein, travailler avec les familles, travailler avec les communautés.
Un dernier point essentiel, on ne peut pas passer à côté, c'est la vaccination. Il nous reste 30 secondes. Comment ça se passe, cette campagne de vaccination ?
Alors, la vaccination, au jour d'aujourd'hui, c'est qu'on vaccine les travailleurs de santé et aussi les contacts et les contacts des contacts. Mmh. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on vaccine que les gens qui n'ont pas été vaccinés la dernière épidémie, en 2018-2019. Mmh. Sauf qu'il y a une difficulté aussi de savoir qui a été vacciné, qui n'a pas été vacciné, parce que les gens n'ont pas des cartes. Donc c'est une activité qui se fait. Donc pour les contacts qui sont en première ligne, les contacts et les contacts des contacts, là selon les derniers chiffres, c'est 60% de ces contacts et des contacts qui sont vaccinés. Donc là, il y a encore un effort à faire pour pouvoir récupérer les gens et organiser cette vaccination, parce que c'est une activité assez importante pour pouvoir prévenir la propagation de
l'épidémie. Merci beaucoup, docteur Léon Saloumou. Notre émission touche à sa fin. Merci à toutes celles et ceux qui l'ont préparée. Demain, on va parler des conséquences de la crise sanitaire de la pandémie de Covid sur le plan psychologique, anxiété, stress, dépression. On en parle demain. D'ici là, portez-vous bien. Et bien sûr, partout dans le monde, lavez-vous bien les mains.
C'était Priorité Santé avec Sonogroup. Rendez-vous tous les mardis sur les pages des réseaux sociaux Sonogroup pour en savoir plus sur nos produits d'assurance et services financiers.